Máme, jestli se směl zeptat.
Oni prej, že jsem absolutně v pořádku a trpím jako zvíře.
Prosím tě, zpamatuj se.
En novembre dernier, lors de la 17e édition du Arras Film Festival, c'était le grand retour du réalisateur franco-tchèque Petr Vaclav. Il était déjà présent en 2014 pour présenter son film Sestaven dans la catégorie Vision de l'Est, et cette fois-ci il était en lice dans la compétition européenne avec We Are Never Alone, film très sombre qui brosse un portrait au vitriol d'une société en perte de repères. Cynisme grinçant, humour acéré et personnages bruts de décoffrage sont les principaux ingrédients de ce long métrage qui ne laisse pas le spectateur indifférent à la sortie de la séance. Petr Vaclav est passé maître dans l'art de brouiller les pistes, d'enliser le spectateur dans un marasme complexe tout en se servant de sa caméra de manière poétique. Entretien avec ce réalisateur au caractère bien trempé pour une analyse plutôt psychanalytique de son film, voire parfois philosophiquement incorrecte.
Nous ne sommes jamais seuls, donc vous l'avez présenté au public. Quelles ont été les réactions en général du public ?
Les réactions sont variées toujours, parce que c'est un film quand même assez acide, dur aussi, qui comporte une certaine noirceur, comme aussi de la dérision et l'ironie, mais c'est un film qui ne caresse pas dans le sens du poil le spectateur, qui ne lui donne pas des faux espoirs, qui parle de l'époque qu'on vit, qui parle des gens qui sont pas contents forcément avec leur vie et qui essayent de la changer, mais pas toujours de la meilleure manière. Donc le débat était assez vif. Ouais.
Moi, une chose qui m'est revenue en repensant à votre film, le soir même, c'est qu'on a l'impression, quand on regarde votre film, qu'on le regarde comme si on lisait un livre.
Ah merci, ça me fait plaisir. Dites-moi en plus.
Ces personnages qui sont imbriqués dans des situations presque inextricables, la façon dont peut-être le montage est réalisé, on a l'impression qu'en fait l'image un peu transpose vos propres mots finalement sur le film.
Ah oui, ça me plaît, merci beaucoup. Mais vous dites que c'est pas par les mots du dialogue, mais que c'est des mots qui jaillissent de l'image. Ouais, c'était ça l'idée de faire un film où, bien sûr, le dialogue est très important, mais ce n'est quand même l'écume sur les vagues.
Tous ces personnages qui sont imbriqués dans ce film, il y a une sorte de puzzle, un chaos organisé qu'on voit à l'écran. On a l'impression que tous ces personnages, malgré tout, sont toujours par fatalité sur un point de non-retour. Est-ce que c'est ça aussi que vous mettez en scène pour justement bousculer le spectateur et le provoquer un petit peu ?
Oui, c'est ce qui m'intéresse déjà dans mes films précédents. Et du coup, les personnages de Nous ne sommes jamais seuls... Là aussi, je reviens à cette problématique du déterminisme. Comment on fait, comment on lutte avec, ou comment ils luttent avec leur déterminisme, avec le monde, toutes les cloisons qui se sont formées autour d'eux depuis leur enfance. Et combien c'est difficile de vivre avec ces clôtures.
Il y a un côté très tragédie également. Alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est une tragédie grecque, quoique. Puis il y a un côté aussi célinien, vous en parliez d'ailleurs avec le public. Hein. Je pense à Mora Crédit par exemple, c'est quelqu'un qui vous inspire beaucoup.
Bah Céline entièrement, c'est compliqué d'en parler parce que bon, il y a Céline des deux premiers livres du voyage et de la Mora Crédit. Après ça devient, enfin le personnage et même ce qu'il écrit après, pour moi ça devient beaucoup plus compliqué. Je connais mal le Céline d'après-guerre. Mais oui, bien sûr, La mort à crédit, c'est un livre qui m'a bouleversé quand j'étais jeune. Et il est possible qu'il y a quelque chose qui reste une sorte d'inspiration, même involontaire, qui se manifeste. Je n'ai pas analysé cela, mais c'est possible, comme d'autres livres que je pourrais citer, qui m'ont formé, parce que je trouve que d'un côté, d'une part, on est formé par la vie et par les gens qu'on a rencontrés, mais l'apport de la littérature à nos consciences, ou en tout cas ma conscience, est capital.
Il y a évidemment les personnages, et notamment on peut aussi penser un peu ces personnages qui sont limite au bord de la folie, parfois. Je pense surtout au mari, qui est très hystérique dans certaines scènes, et très très calme dans d'autres. On dirait qu'il y a une sorte d'introspection à chaque fois, que les personnages se cherchent aussi en même temps qu'ils évoluent à l'écran.
J'ai l'impression que le cinéma, c'est pourquoi ma génération a tellement aimé Cassavetes par exemple, parce que lui est arrivé avec les films sur les fous, sur les malades mentaux, sur une violence qu'on ne voyait pas souvent au cinéma, parce qu'après tout, le cinéma maquille souvent les choses. Je trouve que quand on regarde un peu autour de nous-mêmes, nos vies à nous, les proches, nos proches, quand on parle aux gens, on réalise qu'il y a énormément de folie qui circule autour de nous. Dans le cinéma, je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça. On a toujours une censure, autocensure, on se dit, voilà. J'ai voulu aller assez loin dans la description de ce phénomène, de la folie, de la déraison, de l'irrationnel. Et aussi, je retourne à votre question, mon inspiration par la littérature. Je dirais qu'en même temps, c'est difficile de faire les films pour les gens qui ne lisent plus. Parce que le cinéma est un art absolument génial, comme il lit la narration avec la musique, avec l'image, avec les arts plastiques en quelque sorte. Mais, et bien sûr que la littérature, c'est quelque chose de non dépassable. C'est pour moi, c'est l'art absolu. Et on peut aimer ou préférer faire des films au lieu d'écrire, mais il faut savoir que si on devait arriver dans un monde où on ne lit plus, où on lit mal, on ne peut pas s'adresser aux gens de la même manière. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas seulement l'inspiration par la littérature qui est capitale pour moi, mais c'est aussi le possible de diffuser le film à des gens qui lisent. Donc, la littérature, elle est hyper importante et à la base du cinéma, mais par rapport à sa réception.
Jsem vám přišla říct, že vás miluju.
Takže ty teď budeš šlápota. Panička jako ty, a to nikdy mi nebude, rozumíš?
To tvoje tati nemůže, to nepustíš.
A jestli jo, tak rozhodně nekuj tady.
Když se bojí,
umří
se,
bojí
i žít.
Lidi jako my by měli psát knihy. O nás, o lidem.
Já mohu na tebe čekat, nebo co?
Ty jsi nikdy neměl strach, že umřeš? Tři. Dva. Jedna.
Il y a une chose qui est évidente également à l'écran, ces fameuses séquences où on passe du noir et blanc à la couleur et au noir et blanc. Au début, je croyais que c'était un effet de style. Et puis, je me suis demandé si finalement, le film n'est pas montré un peu en trois parties différentes, l'avant, le pendant, l'après.
Oui, c'est très bien. Je vous ai déraillé un peu.
Pardon ?
Je vous ai déraillé un peu.
Ah oui, tout à fait.
Oh, oui. Oui, c'est un glissement qui se répète deux fois, donc qui effectivement sépare en quelque sorte le film en trois parties. Or, ce sont des parties qui ne correspondent pas aux trois actes, mais qui témoignent l'émotion. Comme disaient les fauvistes, la couleur ne doit pas être réaliste, mais elle doit témoigner des sentiments. Et moi, le premier changement en couleur, je l'opère quand la personne, la femme, décide d'aller suivre son désir. Voilà. Et le retour brutal en noir et blanc arrive au moment où ce désir ne peut plus être en fait vécu, où elle se fait refuser et voilà, où elle se retrouve en quelque sorte au début de son histoire.
Ce noir et blanc que j'ai trouvé vraiment très très beau, notamment sur la première séquence, les 30 premières minutes, beaucoup de contraste. Comment vous travaillez ça?
C'était aussi mon plaisir de pouvoir utiliser le noir et blanc. Et bon, il y a bien sûr quelques personnes qui disaient, est-ce que ça va pas nuire à l'unité de film, est-ce que ça va se vendre, etc. Qu'est-ce qu'ils vont dire les télévisions? Moi je dis non, je voulais vraiment suivre mon désir aussi de travailler en noir et blanc, parce que je savais que le film prochain ne se ferait pas en noir et blanc, le film en costume en Italie au 18e siècle, ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, on a profité aussi de ce film qui était écrit comme ça, qui le permettait, et on a eu un vrai plaisir à replonger dans cette esthétique. Après, comment on l'a travaillé assez normalement, comme le film noir et blanc. Disons que l'étalonnage est peut-être un peu plus simple, où on a plus de choix quand on étalonne aujourd'hui en numérique. Mais bon, on n'a fait rien d'extrêmement spécial. On a ajouté le grain, on a sali le truc. Mais comme aussi dans les parties en couleur, aujourd'hui avec le numérique, on lutte vraiment contre la platitude de l'image. Et donc il faut la salir et il faut la maltraiter un peu pour qu'elle redevienne un peu plus cinématographique.
Alors ce que je trouve particulièrement réussi aussi dans ces trois passages, c'est que encore une fois le spectateur voit les personnages vraiment en perspective à l'écran, c'est-à-dire qu'on évolue avec eux et finalement on s'adapte aussi à leur comportement, justement par ce travail en noir et blanc, en passage en couleur. On a l'impression que on les accompagne et puis ils nous apparaissent peut-être selon les séquences différemment.
Mais on n'est pas, tous les jours, on n'est pas la même personne, on n'a même pas la même gueule quand on se réveille mardi ou quand on se réveille samedi. Donc j'ai voulu montrer cela et puis j'ai voulu être très près des personnages, pas forcément toujours dans leur subjectivité, mais près de leur subjectivité. Et ce qui fait qu'à mon avis, après, ça peut donner une richesse. Voilà, j'essaye toujours faire en sorte pour qu'on oublie que la caméra est en train de filmer un acteur.
Le son également, le son brut, je pense surtout aux scènes de voiture, il est très très fort, enfin, il prend énormément d'espace. Est-ce que c'est une volonté aussi de votre part, j'imagine, de l'avoir mis hyper en avant?
Je ne crois pas qu'il soit fort, après ça dépend des conditions de projection. Il n'est pas fort, il est corpulent, il est rond. À 14 degrés, peut-être à 15 degrés.
En fait, il y a une sorte de puissance qui sort du son, justement, où on est happé, surtout par cette poursuite en voiture et même les démarrages.
Oui, parce qu'en fait, moi j'ai toujours voulu approcher la lumière et le son comme si c'était la matière. Pour moi, le son est une matière, donc il faut qu'elle soit dense, il faut qu'elle soit... qu'on puisse vraiment la cuisiner comme si c'était une pâte, une matière, et stratifier les sons, en mettre beaucoup, créer des pistes compliquées qui à la fin apparaissent plutôt simples. Mais c'est une matière, tout comme la lumière. La lumière n'est pas là pour bien voir qui se promène sur les planches. La lumière est là pour soit souligner les sentiments ou soit être en contrepoint avec les sentiments. Mais si possible, elle doit... Après, c'est vrai, il y a la météo, il y a des conditions, on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut. Mais idéalement, il faut qu'elle exprime aussi les sentiments du film, les ambiances et le son. C'est exactement la même chose. Le son est plus puissant et plus facile à faire parce que, comme on le fait en post-production, on a tout notre temps et les moyens pour réparer les trucs qu'on n'a pas pu faire. Mais ici, on a fait comme ça se passe au village, qui est constamment traversé par les voitures et par les camions. On a fait ces sons parce que là-bas, on a tourné tout le temps en stéréo. On avait beaucoup de micros cachés, donc ça faisait que d'un côté, on avait le le son du plateau, mais on avait aussi les sons extérieurs, les sons de la route, et tout ça, c'était très bien fait de la part de mon ingénieur du son. Donc après, on s'est retrouvé vraiment avec des pistes riches.
Le personnage de ce petit garçon aussi qui à un moment s'enfuit dans les bois, il est très évocateur aussi d'une certaine, je dirais métempsychose. Il est rêveur, il parle pas beaucoup, on dirait qu'il est pas là, il est un peu déconnecté en fait.
Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez un père qui vous maltraite, qui s'intéresse pas à vous, qui considère que de toute façon vous êtes bon à rien, qu'il s'est raté, qu'il vous a eu avec une mauvaise femme, qui peut-être même avait des mauvais gènes ou je sais pas quoi. Lui, il lutte pour sa survie et pour son devenir. Son déterminisme est très lourd. Donc voilà, ce n'est pas étonnant qu'il soit taciturne.
Ce qui est étonnant, c'est que vous filmez vraiment le pessimisme, on va dire, d'une certaine forme de société. Mais c'est jamais négatif, c'est plutôt constructif en fait finalement.
Mais je trouve moi aussi, c'est peut-être encore un retour à l'amour à crédit. Voilà, ce sentiment que la vie est dure, mais en même temps qu'elles offrent beaucoup de possibilités. J'adore cette phrase de Sartre qui dit quand une jeune femme se regarde dans le miroir et dit « Oh, je suis laide », il dit « ce n'est pas une constatation, c'est un programme ». Voilà, et je pense qu'au fond, le film est assez existentialiste et qu'il vous dit « Oui, si on veut, on peut avoir un programme et on peut s'extraire même des situations difficiles ». Une spectatrice disait « Oui, mais un jeune comme ça qui veut se construire, comment il va se construire tout seul, c'est pas possible, il va se faire choper par la police, c'est pas quelqu'un qui peut faire sa vie tout seul. » Je dis, non, même peut-être il a vu quelque chose, il a déjà acquis une expérience qui peut-être lui aidera à accéder à une vie meilleure.
Il est face à son destin en sorte.
Voilà.
Dědo, ty jsi nikdy neměl strach, že umřeš? Chtěl bys to koupit? Do čelíčka? Do srdíčka? Do očíčka?
Sklop to.
Dědo, chceš to dostat do očíčka? Do čelíčka? Potom bys se dostal do nebíčka? Nebo do peklíčka. 3, 2, 1.
Le casting aussi, puisque vous avez repris un peu les acteurs, je pense au rôle de Silva surtout, qui était déjà présent sur votre précédent film, hein, Zanetta, c'est Staven, hein, qui était présenté ici il y a 2 ans. C'est un projet que vous aviez commencé à travailler avec eux en même temps que le tournage de votre précédent film, c'était prévu que vous repreniez ces mêmes acteurs ?
Non, ce n'était pas prévu, mais comme le scénario de Nous ne sommes jamais seuls a été déjà écrit avant le tournage de Zanetta, et j'ai trouvé Claudia Dudová, c'est une actrice née, c'est une Rome tchèque que j'ai trouvée lors d'une fête Rome, dans un bistrot dans le nord du pays. Il s'est avéré qu'elle était vraiment très bonne. Et Zdeněk Godla, la même chose, c'est quelqu'un qui a fait de la prison, qui a eu une vie vraiment difficile et qui était déjà très bon dans Zanetta, sauf qu'il a eu un rôle tout petit. Donc je me suis dit, super, j'ai déjà le casting, parce que autrement ça aurait été difficile. Mm-hmm. Et pour les rôles des autres, j'ai pris les acteurs que je connaissais déjà, des acteurs avec lesquels j'ai tourné un long métrage il y a des années déjà. Donc finalement, je connaissais bien tous les acteurs principaux. C'était mon idée, comme Claudia, elle a eu le prix national pour la meilleure actrice de l'année, tout ça. C'est pas comparable, mais c'est un peu comme les Césars en France. Donc pour la communauté rome, c'était très important. Elle n'en revenait pas. Et moi aussi, j'avais envie de continuer, de leur donner un... Parce que comme je sais qu'ils ne vont pas être... probablement appelé par d'autres réalisateurs, parce que les ils sont roms et les sujets, enfin les films qui parlent des roms, on n'en fait pas tous les ans. Donc j'ai eu aussi cette envie de continuer avec eux pour construire quelque chose, pour que leur talent s'épanouisse. Et juste après ce film-là, Nous ne sommes jamais seuls, nous sommes partis, avec peu d'argent d'ailleurs, pour un road movie où ils jouent encore. Donc, et ça m'a permis de faire avec eux trois films où il s'est avéré vraiment que c'est des super acteurs. Maintenant, voilà, je ne peux plus continuer dans ces directions, mais j'espère que ça leur servirait.
Avant de clore cet entretien pour cette 17e édition, Petr Vaclav faisait également partie des Arras Days, qui permettent aux réalisateurs, producteurs, distributeurs, acheteurs, publics et responsables de festivals de se rencontrer pour la présentation de coproductions européennes. Qu'est-ce que c'est exactement que ces Arras Days ? Eh bien, le réalisateur ou le producteur défend son projet cinématographique devant un jury de professionnels et le film qui remporte ce prix se verra attribuer une bourse d'aide permettant de développer les moyens de distribution mais aussi de production du projet. Bref, un bon coup de pouce. Petr Vaclav nous parle du film qu'il défendait et puis en bonus répond à une question d'actualité avec son franc-parler.
Cette 17e édition du festival, vous êtes aussi invité pour les Arras Days pour présenter un nouveau projet, hein, Il Bohemo. Alors comment ça s'est passé ces Arras Days et vous pouvez nous parler un petit peu, pitcher un peu ce nouveau projet ?
Oui, oui, je suis venu avec un projet d'un film qui se passe en Italie au 18e siècle, entre 1765 et 1780. Et qui parle d'un compositeur de musique qui est un immigré, qui arrive sans rien, sans protection, sans amis à Venise. Et au bout de 4 ans, il fait une carrière immense. C'est un personnage qui a vraiment existé, qui est oublié aujourd'hui, qui s'appelle Józef Mistyliszek et qui a fait vraiment une carrière incroyable. Et comme l'opéra seria a été oublié par la suite, lui aussi et son nom et sa musique ont été oubliés comme la musique de beaucoup d'autres compositeurs italiens. Donc c'est un film qui raconte une histoire icarienne d'un immigré qui a tout changé pour venir dans le pays où il peut réaliser son rêve qu'il réalisera, mais il paiera aussi un prix très fort. L'immigré en fait arrive à rompre avec son propre déterminisme parce qu'il a été destiné à être un bourgeois qui aurait pu mener une vie très calme, d'un bourgeois bien, enfin, avec des biens, des maisons, des terres et tout, et il décide de s'échapper, de se confronter même à la pauvreté, à une vie extrêmement difficile avant qu'il n'arrive à être payé, à faire vraiment son travail.
Pour terminer, deux petites questions, plutôt d'actualité. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on a été un petit peu, on va dire, très bousculé par ce qui se passe du côté de la Syrie, les réfugiés, la fermeture de certaines frontières. Votre regard en tant que réalisateur, artiste là-dessus ?
Bah, je pense que je l'ai dit dans Nous ne sommes jamais seuls, où vraiment le gardien de prison qui n'aime pas les Roms, il a aussi très peur des réfugiés. Donc, moi je pense que ce film est très actuel et qui montre aussi qui sont les électeurs de nos dirigeants qui commencent à émerger. C'est Trump, ça va être. On ne sait pas qui en France dans quelques mois. Donc, je pense, et même avec mes films sur les Roms, je pense que je me suis assez clairement exprimé.
Ça vous a étonné d'ailleurs l'élection de Trump, finalement ?
Non, j'étais sûr qu'il gagnerait. Parce que je trouvais que cette politique où on se dit les gens finalement ils vont toujours dire oui, le pacte des républicains, on va pas voter les pires parce que les autres sont pas bons, les gens veulent plus ça. Et avec Sanders ça aurait été peut-être une autre chose, mais comme ça les gens se disent finalement on nous fourre toujours quelqu'un, un ancien qui n'est peut-être pas si mal que ça mais qui va faire pareil comme les autres, et on nous oblige à voter pour les nazes sous prétexte qu'il ne faut pas voter pour les pires. Et je crois que c'est vraiment une mauvaise politique et que ça ne va pas marcher, que même nous ne sommes jamais seuls, montre ces gens-là et leur rage des gens qui finalement préfèrent l'enfer au médiocre.
C'était un entretien avec le réalisateur franco-tchèque Petr Vaclav, qui était en lice pour la compétition européenne avec le film We Are Never Alone lors de la 17e édition du Arras Film Festival qui s'est déroulée en novembre dernier.